Après la fermeture de la bibliothèque, Oshima m'emmène dîner dans un restaurant de fruits de mer. Les grandes baies vitrées font face à la mer plongée dans la nuit. Je pense aux créatures qui vivent dans cette eau. « Il faut que tu sortes de temps en temps et que tu prennes un repas bien nourrissant », dit Oshima. « Je n'ai pas l'impression que la police surveille la bibliothèque. Il n'y a aucune raison d'être nerveux pour le moment. Ce petit changement de décor va te faire du bien. » Après avoir pris une grosse salade, nous commandons une paella que nous nous partageons. « J'aimerais aller en Espagne un jour », dit Oshima. « Pourquoi en Espagne ?»« Pour participer à la guerre d'Espagne. » « Mais elle est finie depuis longtemps. » « Je sais bien, Lorca y a laissé sa peau. Hemingway a survécu. Mais j'ai tout de même le droit de vouloir aller en Espagne participer à cette guerre. » « Métaphoriquement. » « Bien sûr, » dit-il en grimaçant. « Un hémophile de sexe indéterminé qui n'a pratiquement jamais mis les pieds hors de Shikoku ne peut pas aller réellement faire la guerre en Espagne, si ?»
Nous dévorons l'énorme paella en buvant du Perrier. « Il y a du nouveau dans l'enquête sur le meurtre ?»«
Rien qui vaille la peine d'être signalé. En tout cas, ces derniers temps, les journaux n'ont guère donné d'informations sur l'affaire. À part une chronique nécrologique dans les pages culture, l'enquête doit piétiner. » Malheureusement, les résultats de la police sont en baisse, comme les cours de la bourse. Ils n'ont même pas été capables de retrouver le fils fugueur.
Un garçon de 15 ans à peine.
15 ans, avec des pulsions de violence et quelques obsessions, complète Oshima.
Et les poissons tombés du ciel?
Oshima secoue la tête. Là aussi, l'enquête est au point mort. Rien d'autre n'est tombé du ciel depuis. À l'exception, bien sûr, des coups de tonnerre de l'autre soir, dignes de figurer dans le livre des records.
Le calme est revenu alors?
Ça m'en a tout l'air. Ou alors, nous sommes dans l'œil du cyclone.
Je hoche la tête, prends un coquillage dans le plat et en extrais la chair avec ma fourchette. Je dépose la coquille vide dans l'assiette prévue à cet effet.
« Tu es toujours amoureux ?» demande Oshima.
Je hoche la tête. « Et vous ?» Oshima-san ?
Tu veux dire, est-ce que je suis amoureux ?
Je réitère ma question, mais il veut des précisions.
Autrement dit, tu poses une question indiscrète à propos de l'éventuelle romance qui pourrait pimenter la vie privée forcément pervertie d'un hermaphrodite homosexuel et hémophile.
Je hoche la tête et il fait de même.
Eh bien oui, j'ai un partenaire,
reprend-il. Il s'attaque à un coquillage avec concentration.
Pas le genre de passion violente qu'on trouve dans les opéras de Puccini, mais, comment dire, c'est quand même un peu ni avec toi ni sans toi. On ne se voit que de temps en temps. Mais je pense que fondamentalement, une entente profonde nous unit.
Une entente profonde ?
Quand Haydn composait, il s'habillait toujours de façon très formelle et mettait une perruque poudrée.
Surpris, je regarde Oshima. Haydn ?
Sans cela, il ne pouvait pas composer de musique.
Mais pourquoi ?
Je ne sais pas. Seul Haydn et sa perruque le savent. Personne d'autre. Ça ne s'explique peut-être pas.
Je hoche la tête. Dites, Oshima-san, cela vous arrive quand vous êtes seul, de penser à votre partenaire et de vous sentir triste ?
Évidemment. Cela m'arrive de temps à autre. Spécialement à la saison de la lune pâle ou quand les oiseaux s'envolent vers le sud.
Pourquoi, évidemment ?
Parce que celui qui aime cherche la partie manquante de lui-même. Aussi, quand on pense à l'être dont on est amoureux, on est toujours triste. C'est comme si on entrait à nouveau dans une chambre pleine de nostalgie qu'on a quittée il y a longtemps. C'est normal. Tu n'es pas le premier à découvrir ce sentiment. Alors, n'essaie pas d'en obtenir le brevet exclusif, d'accord ?
Je pose ma fourchette et lève la tête. Une chambre lointaine ? Pleine de nostalgie ?
Exactement, dit Oshima.
Puis il lève sa fourchette en l'air et ajoute.
C'est une métaphore, bien sûr.
À 9h du soir, Mademoiselle Saeki me rend visite dans ma chambre. Je suis assis devant la table en train de lire, quand j'entends sa Golf se garer dans le parking. La portière claque au moment où elle descend. Ses semelles de caoutchouc crissent tandis qu'elle traverse le parking. Puis elle frappe à ma porte et je lui ouvre. Elle est là, devant moi. Cette fois, elle ne dort pas. Elle porte un chemisier à rayures roses, un jean en toile légère des tennis blanches. C'est la première fois que je la vois en pantalon. J'avais la nostalgie de cette pièce, dit-elle. Elle s'arrête devant le tableau au mur et ajoute « Et de ce tableau aussi. » « Est-ce qu'il a été peint près d'ici ?»« Il te plaît ?» Je hoche la tête. « Qui est l'artiste ?» Un jeune peintre qui résidait chez les Komura cet été-là. Il n'était pas spécialement célèbre, du moins à l'époque, et j'ai oublié son nom. Mais il était gentil. Et je pense que ce tableau est une réussite. Il en émane une certaine force, non ? J'étais à côté de lui pendant qu'il le peignait. Je le regardais, lui donnais des conseils en plaisantant. On s'entendait bien, ce peintre et moi. Cela remonte à loin maintenant. C'était l'été de mes 12 ans. Et le garçon sur le tableau avait 12 ans lui aussi. On dirait que c'est peint au bord de la mer près d'ici, non ? Viens, dit Mademoiselle Saiki. Allons nous promener. Je te montrerai l'endroit. Je marche avec elle jusqu'au rivage. Après avoir traversé une pinède, nous foulons le sable de la plage. Les nuages s'entr'ouvrent, une lune à son demi-quartier éclaire les vagues. Des vaguelettes qui se soulèvent à peine et se brisent aussitôt. Mademoiselle Saiki s'assied sur le sable et je m'installe à côté d'elle. Le sable est encore tiède. Elle tend les doigts comme pour vérifier le cadrage, désigne un point de la côte où les vagues viennent s'écraser. C'est de là qu'il a peint cet endroit. Il avait installé une chaise pliante sur la plage et y avait fait asseoir le garçon. Et il avait disposé son chevalet ici. Je m'en souviens bien. Tu vois l'île là-bas, elle est exactement à la même position que dans le tableau. Je regarde le point au bout de son doigt. La position de l'île est la même, sans aucun doute. Mais j'ai beau regarder, je ne reconnais pas le paysage du tableau. Je le lui dis. Les environs ont changé depuis cette époque, me répond-elle. C'était il y a 40 ans. Même la topographie du lieu s'est transformée. De nombreux phénomènes affectent le littoral, les vagues, le vent, les typhons. La plage s'érode ou au contraire elle s'agrandit. Mais il n'y a pas le moindre doute, c'était bien là. Je me le rappelle aussi nettement que si c'était aujourd'hui. C'est aussi cet été-là que j'ai eu mes premières règles. Ensuite, nous regardons le paysage un moment tous les deux sans rien dire. La forme changeante des nuages crée des mouchetures sur le clair de lune. Le vent siffle à travers la pinède. On croirait qu'une armée de jardiniers ratisse le sol. Je ramasse une poignée de sable, le laisse couler entre mes doigts. Et le sable se fond à nouveau dans celui de la plage, comme le temps écoulé. Je répète plusieurs fois ce geste. « À quoi penses-tu ? » demande Mademoiselle Saiki. « À partir pour l'Espagne, » dis-je. « Pourquoi l'Espagne ? » On y mange de bonnes paellas. C'est tout ? Non, je voudrais faire la guerre d'Espagne. Mais elle est finie depuis plus de 60 ans. Je sais bien, Lorca y a laissé sa peau, Hemingway a survécu. Mais tu voudrais quand même la faire ? Je hoche la tête. Je ferais sauter des ponts. Et tu tomberais amoureux d'Ingrid Bergman. Mais dans la réalité, je suis à Takamatsu. Et je suis amoureux de vous. La vie est mal faite. Je passe un bras autour de ses épaules. Tu passes un bras autour de ses épaules. Elle s'appuie contre moi. Un long moment s'écoule. J'ai fait exactement la même chose. Il y a bien longtemps, exactement à cet endroit. Je sais, dis-je. Comment le sais-tu ? Demande Mademoiselle Saiki. Puis elle me regarde. « Parce que j'étais là, à ce moment-là. »« Tu faisais sauter des ponts ?»« Je faisais sauter des ponts. »« Métaphoriquement ?»« Bien sûr. » Tu la prends dans tes bras et la serres contre toi. Tu poses tes lèvres sur les siennes. Tu sens toutes ses forces l'abandonner. « Nous rêvons tous, » dit-elle. « Oh oui. » Nous rêvons tous. pourquoi a-t-il fallu que tu meures ?
Je ne pouvais pas faire autrement, répondis-je.
Tu marches avec Mademoiselle Saiki sur la plage, puis vous rentrez à la bibliothèque. Tu éteins la lumière, tu fermes les rideaux, et sans dire un mot, vous vous mettez au lit et vous vous enlacez. Il se passe presque exactement la même chose que la nuit dernière, à deux différences près. Elle pleure après l'amour. Elle enfouit son visage dans l'oreiller et elle pleure longuement, en silence. Tu ne sais pas quoi faire. Tu poses doucement la main sur son épaule nue. Tu sens qu'il faudrait dire quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Tous les mots ont disparu dans le fossé du temps. Ils se sont entassés sans bruit au fond d'un lac volcanique. Voilà pour la première différence. Ensuite, quand elle repart, tu entends le bruit du moteur de sa Golf. C'est la deuxième différence. Elle démarre, puis coupe le moteur, comme si elle réfléchissait. Ensuite, elle tourne à nouveau la clé de contact et sort du parking. Ce silence entre les deux démarrages te laisse un arrière-goût d'une infinie tristesse. Ce vide envahit ton cœur comme une brume blanche la surface de la mer, et il reste là longtemps. Longtemps. Si longtemps qu'il devient une partie de toi. Mademoiselle Saiki a disparu, ne laissant derrière elle qu'un oreiller mouillé de larmes. Tu poses la main sur ce tissu humide et tu regardes le ciel blanchir par la fenêtre. Au loin, tu entends crailler un corbeau. La terre continue lentement de tourner. Au-delà de ces détails, chacun vit dans ses rêves.